Deutsche Welle. Allemagne Magazine.
Als Deutscher kann man von einem Völkermord in Afrika nicht sprechen.
En tant qu'Allemand, on ne peut pas parler d'un génocide en Afrique sans penser au génocide dont nous portons la responsabilité. Cela représente des moments cruciaux dans la destinée de nos continents. Il forge notre action jusqu'à aujourd'hui et il forge aussi les relations entre nos deux continents.
Auch die Beziehungen unserer Völker zueinander.
Vendredi dernier au Bundestag, Frank-Walter Steinmeier, ministre allemand des Affaires étrangères, s'exprime devant les députés lors d'une séance parlementaire consacrée en partie au 20e anniversaire du génocide rwandais. Commémorer les massacres, rendre hommage aux victimes, se souvenir aussi de l'incapacité de la communauté internationale à empêcher le pire. Autant de résolutions qui s'appliquent également à notre second sujet, le traitement infligé aux personnes handicapées sous le Troisième Reich. À la présentation, Constance Wenkotze, Guten Tag, bonjour à tous. Des mots et des bons mots, c'est ce qu'on entend lorsque l'on s'entretient avec Mathias Arebamungu, le ministre rwandais de l'Éducation, à propos de l'Allemagne. Les relations germano-rwandaises sont excellentes et empreintes de respect. Le Rwanda profite en particulier de l'expérience allemande en matière de système éducatif.
Nous voulons évoluer vers une société basée sur le savoir. L'Allemagne nous aide précisément là-dessus, en soutenant notre système d'éducation et en équipant nos écoles.
Même si 20 ans après le génocide, le Rwanda a accompli d'énormes progrès et que son économie est autonome à 60%, le pays a encore besoin de soutien extérieur, précise le ministre. En cela, le rôle de l'Allemagne est crucial. Le pays arrive d'ailleurs en 5e position pour ce qui est de l'aide bilatérale, avec une mention spéciale pour la Rhénanie-Palatinat, une région dans le sud, frontalière de la France, et qui entretient depuis une trentaine d'années une relation particulière avec les Rwandais. Richard Hohenheim préside l'association de partenariat entre sa région et le Rwanda.
L'aspect singulier de notre partenariat, c'est que nos citoyens établissent des contacts directs et personnels avec des citoyens rwandais. De nombreux habitants de la région mènent leurs projets de manière indépendante, sans notre soutien.
Au niveau de la communauté internationale, le Rwanda est le chouchou des politiques de développement. Outre l'Allemagne, les États-Unis et le Canada sont étroitement liés à Kigali. Et puis la France, la Belgique, la Grande-Bretagne ou encore la Chine comptent également parmi les partenaires importants. Gerd Hankel de l'Institut de recherche sociale de Hambourg pense savoir pourquoi.
En matière de politique de développement, le Rwanda est une sorte de phare, un pays où on a l'impression que l'aide financière porte vraiment ses fruits. Et plus la situation des pays voisins, Kenya, Ouganda, Tanzanie, Burundi et surtout République démocratique du Congo, se détériore, plus le phare Rwanda se met à briller.
Tout n'est cependant pas rose entre Kigali et ses partenaires. Bémol majeur, l'est de la République démocratique du Congo. Lorsqu'en 2012, des experts de l'ONU publient des preuves selon lesquelles le Rwanda soutient des rebelles dans cette région instable, de nombreux pays, dont l'Allemagne, coupent leur robinet d'aide au Rwanda. Cela dit, quelques mois plus tard, c'est aussi Berlin qui décide en premier de lever les sanctions contre Kigali. Le ministère allemand de la coopération économique et du développement note avec satisfaction que les autorités rwandaises s'efforcent de faire aboutir les négociations régionales dans le cadre du processus de paix congolais. Rouvrir le robinet constitue pourtant une erreur fatale pour Gerd Hankel, que nous avons entendu précédemment. Voilà comment il explique le dilemme auquel l'Allemagne est confrontée.
Étant donné que l'Allemagne s'est elle-même rendue responsable d'un génocide sous le Troisième Reich, elle se sent tenue de faire preuve de bienveillance à l'égard du gouvernement du président Paul Kagame, ce dernier étant aussi celui qui a mis fin au génocide rwandais. Ce n'est pas forcément une mauvaise chose, mais il faut aussi savoir fixer des limites claires et ne pas se laisser intimider.
Vendredi dernier, certains députés allemands se sont également demandé si la communauté internationale avait tiré les leçons du génocide rwandais et était devenue moins silencieuse, moins passive. Alors les noms Syrie et République centrafricaine ont certes été prononcés, mais la question « que peut faire Berlin concrètement pour empêcher d'autres génocides » est, elle, restée sans réponse. Une intervention à retenir cependant, celle de Cordula Schulz-Hache, députée pour le Parti des Verts. Elle vivait au Rwanda en 1994 et a été évacuée au Burundi au moment où les massacres contre les Tutsis ont commencé. Cordula Schulz-Hache demande notamment l'ouverture des archives du ministère allemand des Affaires étrangères concernant cette période. En principe, ces dernières sont sous embargo jusqu'en 2024. Selon elle, ces documents peuvent permettre de faire la lumière sur le rôle exact de l'Allemagne durant le génocide rwandais. Le gouvernement a-t-il diffusé toutes les informations en sa possession ? À l'époque, le gouvernement aurait-il pu s'investir davantage ? Pourquoi avoir refusé l'asile aux Rwandais durant le génocide alors même que la région de Rhénanie-Palatinat avait fourni en amont des garanties en ce sens ? Autant de questions qui pèsent sur les relations entre l'Allemagne et le Rwanda et qui expliquent peut-être aussi pourquoi Berlin n'a pas envoyé de ministre à Kigali pour les commémorations officielles de lundi dernier. Fahrerschal und Army Parker. Andi war's, der in der Nacht an die Wand in der Schule malte. Nein, gemeint die Intervention im Irak, die in der Tat viele Menschen mit dem Leben zahlten. Andi sei Kroate, der sein Land verrate, meint sein Vater, weil er lieber sprühte, als an Handgranaten töten übte. Nur unsere Herzen glühten für die Rights in US-Städten. Unsere Wunderkerzen glühten für Asyl auf Lichterketten. Und als ob sie's wichtig hätten, unter uns die Brandstifter auf Wählerfang. Ich weiß, was Tracy Chapman für Mandela sang. About the revolution. Leg dein Ohr auf die Schiene der Geschichte. Appréhendé, poursuivi, anéanti, il ne s'agit plus du Rwanda, mais bien de l'Allemagne et d'une exposition présentée au Centre de documentation topographie de la terreur à Berlin. Cette exposition, elle est consacrée à tous les malades et handicapés qui ont été stérilisés de force ou assassinés sous le régime nazi. Conçue pour être itinérante, elle fait la lumière sur un chapitre de l'histoire allemande longtemps resté tabou et dont les coupables n'ont que rarement été punis. Reportage de notre correspondante dans la capitale allemande, Audrey Parmentier.
L'exposition commence avec deux murs de photos qui se font face.
Petra Lutz, commissaire de l'exposition.
Sur l'un des murs, nous voyons des victimes de l'euthanasie nationale socialiste et des stérilisations forcées, mais ce ne sont pas des photos issues de leurs dossiers médicaux. Elles proviennent d'albums de famille. Sur l'autre mur, ce sont les assassins et leurs complices, des médecins, des infirmières, des aides-soignants, des curés. Et eux non plus ne sont pas en tenue de travail, en blouse blanche, mais dans des situations du quotidien, avec leurs petits-enfants ou encore en vacances au ski.
Si Petra Lutz a choisi des photos privées, c'est pour montrer que l'action T4 a eu lieu au sein même de la société allemande et que tout le monde était donc concerné au moins indirectement. L'action T4, qui correspond au numéro 4 de la Tiergartenstrasse où elle a vu le jour, était un programme d'élimination systématique de ceux qui, aux yeux des nazis, constituaient une charge pour la société, en premier lieu les handicapés mentaux et physiques. Entre 1933 et 1945, 400 000 personnes ont été stérilisées de force et plus de 200 000 autres qui étaient dans des maisons de santé ou des hospices ont été assassinées.
Une des victimes dont on retrace l'histoire de manière détaillée, c'est Irma Sperling, qui est née à Hambourg et qui a été envoyée très tôt, dès l'âge de 3 ans, dans une institution spécialisée. Son père était communiste, il a été arrêté et enfermé par les nazis dès 1933. La famille est alors tombée dans la pauvreté. Et elle a envoyé Irma dans cet établissement parce qu'on lui reprochait d'avoir un handicap mental. Elle a ensuite été déportée à Vienne, en Autriche, et elle a été assassinée après avoir subi de nombreux examens. Du côté des bourreaux, on trouve Valentin Faltelhauser, un psychiatre qui se considérait comme un réformateur et qui a défendu une psychiatrie très progressiste avant 1933. Mais avec l'arrivée au pouvoir des nazis, il s'est tout de suite rallié à l'idée d'hygiène raciale et a tout de suite participé aux stérilisations forcées, puis à tous les assassinats, sans exception, qui ont eu lieu au sein de son institution. Il était consultant pour le programme T4, autrement dit pour les meurtres dans les chambres à gaz. Il a également empoisonné de nombreux patients et a inventé une forme d'assassinat par sous-alimentation qui a été utilisée en Bavière. Condamné à 3 ans de prison après la guerre, Valentin Faltelhauser n'a jamais purgé sa peine et ce n'est pas un cas isolé. De nombreux médecins qui ont participé à l'action T4 n'ont pas été inquiétés. Et ce n'est que tout récemment, en 2010, que la Société allemande de psychiatrie, psychothérapie et neurologie a présenté ses excuses aux victimes. La DGPPN, dont Frank Schneider est le président, est partenaire de cette exposition.
En tant que descendants des bourreaux de par notre métier, nous sommes certes partiaux, mais il nous importe de montrer que nous assumons notre métier. Nous voulons que ce qui s'est passé à l'époque soit rendu public. Actuellement, il y a de nombreux débats sur les questions bioéthiques et sur l'euthanasie. Nous espérons que cette exposition permette aux visiteurs de clarifier la manière dont il agira à l'avenir. Si c'est le cas, notre objectif sera atteint.
La Société allemande des psychiatres a par ailleurs fait en sorte que l'exposition soit accessible à tous. En plus de l'audioguide classique, un appareil spécialement conçu pour l'occasion donne accès à des explications en langue des signes. Un catalogue en langue simplifiée vient s'ajouter au catalogue officiel et une visite spéciale a également été organisée pour les aveugles.
Et si vous passez à Berlin, l'exposition est à voir à la Topographie de la Terreur jusqu'au 13 juillet, avant de partir pour d'autres villes d'Allemagne. Merci à Audrey Parmentier pour ce reportage et merci à Philippe Zandner pour les sons sur le Rwanda. Pour écouter, réécouter ou conseiller ce magazine, direction notre médiathèque sur le dv.de/français. Et pour le commenter, direction votre boîte mail avec l'adresse français@dw.de. Bonne semaine à tous, à la prochaine et tschüss.
Ich kann wieder fliegen, was mich ärgert, lass ich liegen und steh keineswegs mehr auf dem Schlauch. Wenn ich dunkle Wolken sehe, bleib ich zu Haus und mach mir Tee und gar nichts haut mich um. Ich werf an meine Türen schreiben, Krisen müssen draußen bleiben, sie wissen schon warum.